Des mots pour le dire. Une émission de Redouane Espanti avec Michel Théron.
Théologie buissonnière, c'est une manière de dire les choses aujourd'hui dans le monde nouveau où les mutations sont présentes. C'est une manière aussi de ne pas figer la pensée, de ne pas figer la théologie. C'est une manière de se dire qu'il y a aussi des manières de lire la foi, de lire ce qu'on appelle la parole de Dieu, et à l'éclairage de ce qu'on aura vécu depuis tant et tant d'années. Depuis 2000 ans, il s'est passé un tas de choses. L'histoire humaine n'est pas restée statique, et c'est ce que essaye de partager avec nous donc Michel Théron, que j'accueille une fois de plus pour partager avec nous des mots clés de culture religieuse. Et pendant ces 50 minutes partagées ensemble, c'est un salutaire remue-ménage auquel il nous invite. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane.
Bonjour à vous, qui êtes aussi à l'autre bout du poste, ou bien de l'ordinateur, puisque aujourd'hui on peut encore recevoir jusqu'au l'autre bout du monde FM+. Il suffit de taper www.fmplus.org. Alors, je disais des mots comme remue-ménage, des mots clés, comme celui que vous nous proposez aujourd'hui pour démarrer notre émission, le pardon.
Le pardon. Alors, le mot « pardonner » en français vient du latin « per » et puis de « donare ». Proprement, cela signifie « donner complètement » et ou bien « remettre ». Il s'agit bien d'un octroi, donc d'une libéralité. Rien n'est dit dans le mot français sur les intentions ou les motifs de celui qui octroie ce don. On nous indique seulement l'acte et la conduite, et non pas les causes ou le contexte. Il faut donc creuser, il me semble, les circonstances du pardon. Alors, en judaïsme, la vision du pardon, et ensuite en christianisme, renvoie, il me semble, au départ à l'idée d'une religion conçue comme un contrat, une religion, pourrait-on dire, du donnant-donnant. Le pardon est un processus qui efface donc la dette étant consécutive à la faute humaine, laquelle est rupture du contrat. À l'origine, il y avait, dans le monde juif, le rituel du bouc émissaire, qui portait sur lui les péchés de la communauté et qu'on envoyait au désert le jour de la fête des expiations, ou du Yom Kippour, et Yom Kippour signifie « jour du pardon ». Les anciens grecs aussi connaissaient cet usage. Cet usage consiste en l'expulsion thérapeutique d'une victime désignée, qu'on appelait le pharmakos, au sein d'une société. Et on trouve plus tard en monde chrétien une figure de ce pharmakos ou de la victime désignée. C'est évidemment la figure de l'agneau de Dieu qui porte sur lui les péchés du monde, que l'on voit par exemple en Jean 1, 29 et 1, 36. Mais surtout, sur l'autel, c'est le sacrifice d'une victime expiatoire qui permet le pardon. Voici ce qu'on lit dans Lévitique 17:11, « Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Et c'est exactement ce que reprend en monde chrétien l'Épître aux Hébreux, qui dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » 9:22. Alors bien sûr, il y a une restriction que nous allons voir, mais aussi d'une certaine façon, dans une parfaite continuité avec les sacrifices anciens, le Christ, dit encore l'Épître aux Hébreux, a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Épître aux Hébreux 9:26. Alors la restriction, c'est bien sûr une seule fois, hein, mais le thème est le même. Et alors bien sûr, les catholiques s'appuie sur de tels passages pour justifier la seconde partie de la messe où se déroule la liturgie du sacrifice. Mais je ne vois pas d'où les catholiques peuvent tirer ici l'idée d'un sacrifice qui ne serait pas sanglant, idée que l'on voit dans beaucoup de manuels de théologie catholique encore. Alors, on connaît, alors bien sûr, là je viens de parler de la messe, Redouane, en monde protestant, ce que je viens de dire n'a pas lieu d'être. Hein.
Ça dépend. Effectivement, la question du sacrifice, la question du rachat, de la faute, il y a plusieurs sensibilités, et selon les sensibilités, on reste toujours sur l'idée qu'en fait, la faute ne peut pas être autrement rachetée que oui. Par le sacrifice du Christ. C'est un peu ce qu'a essayé de contrecarrer la théologie du process, en disant le salut du monde ne vient pas seulement du sacrifice du Christ.
Tout à fait. Alors on connaît le raisonnement de Paul, qui est cher bien sûr aux protestants. Hein. Voici ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, 8:32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, il s'agit du Seigneur, de Dieu, hein, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce, hein? Mais déjà, on a remarqué dès le XVIe siècle que ce raisonnement comporte une grave faille. En effet, si Dieu a eu besoin du sacrifice de son fils pour pardonner aux hommes, en vérité, il n'a pas pardonné, puisque pardonner exige qu'on efface une ardoise, et non pas qu'on recouvre une dette. Si le créancier, c'est-à-dire Dieu en l'occurrence, a été payé par le sacrifice du Fils, il n'y a pas eu de remise de dette, donc il n'y a pas eu de pardon. Et l'idée de sacrifice expiatoire exclut par conséquent le pardon de Dieu, comme au XVIe siècle l'a vu Faust Saucin, ainsi que ses disciples que l'on appelait les Sauciniens. Saucin était pour un christianisme sans sacrifice. Hein. Il y a encore une sensibilité saucinienne aujourd'hui s'agissant de ceux qui sont hostiles à cette idée du Christ victime expiatoire. Alors, je préférerais donc, il me semble, l'idée d'effacement réel d'une dette. Hein. Il est vrai que cette idée de l'effacement d'une dette peut aller contre la justice. Mais si le but est de faire croître, c'est-à-dire augmenter les rapports humains, alors toute ouverture au pardon est préférable au repliement sur une justice conçue de façon impitoyable. Comme on le voit dans le livre de Jonas, qui, à cet égard, est très édifiant. Un adage juridique même nous dit « summum ius summa injuria », c'est-à-dire « plus grand est le droit, plus grande est l'injustice ». On peut dire effectivement que le pardon est injuste. Qu'est-ce que vous en pensez, Redouane ?
Oui, peut-être vécu comme injuste. On pourrait dire qu'il est injuste, non, j'irai pas jusque-là. Effectivement, comment peut-on accepter que les uns soient pardonnés pour une faute ? Je pense en particulier au fils prodigue. Hein, en ce qui concerne le fils prodigue, le fils aîné ne supporte pas ce qu'il considère comme une injustice.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, je voulais faire mention de cet épisode de l'enfant prodigue. Mais préalablement, je vais faire mention de l'épisode de Luc 1, 8, qui suit effectivement exactement l'épisode de l'enfant prodigue. Voici ce que Luc écrit. « Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. » Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends-moi compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de mes biens ? Travailler à la terre, mais je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. » Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « combien dois-tu à mon maître ? 100 mesures d'huile, répondit-il. Alors il lui dit, prends ton billet, c'est-à-dire ta reconnaissance de dette, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu ? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, c'est-à-dire ta reconnaissance de dette, et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand vous viendrez à manquer. Donc, cette parabole, elle est fascinante. Il s'agit d'un intendant dans la traduction que je viens que non d'un économe dans la traduction que je viens de donner, mais parfois on parle d'un intendant. Elle est admirable, cette parabole de l'intendant malhonnête, que l'on appelle parfois aussi intendant infidèle. Littéralement, le texte porte, c'est l'intendant de l'injustice, oikonomos tes adikias. Cette parabole est un défi à la raison, un défi à l'équité et aux habitudes même. Un texte comme cela a occupé le philosophe ou le psychanalyste Jung, par exemple, toute sa vie durant. En effet, que lisons-nous dans cette parabole ? C'est que on peut agir tout à fait malhonnêtement, hein, c'est-à-dire de façon injuste, vous voyez, Redouane, c'est-à-dire effacer des dettes et par là objectivement escroquer son maître, si l'enjeu est de se faire des amis, c'est-à-dire de développer les relations humaines. Le but, en pareil cas, la chaleur humaine, justifie tout. Et alors, effectivement, de cette parabole, on peut rapprocher celle que vous avez signalée, Redouane, sur l'enfant prodigue.
Alors, je ferai juste, j'apporterai un petit bémol concernant cette parabole. Effectivement, on pourrait s'y méprendre, et je crois qu'on s'y méprend. En fait, ce n'est pas un procédé malhonnête auquel a recours l'économe. En fait, il abandonne sa part.
Ah, j'avais pas pensé à ça, oui.
Il abandonne sa part, et c'est ça, faites-vous des amis avec les richesses. Donc, du coup, du fait qu'il abandonne sa part, le coût est réduit pour
donc,
le débiteur.
De 100 à 50, par
voilà.
exemple.
Et oui.
C'est la part de...
C'est la part de injuste que percevait l'économe.
Bien, écoutez, ça c'est une tentative... pour rationaliser le texte et pour supprimer l'idée d'injustice.
Non, c'est que dans le cas, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, en fait, n'étaient pas payés. Leur charge n'était pas payée. Ils se payaient eux-mêmes
oui.
en ramassant tous les impôts. Et dans les impôts qu'ils imputaient à tel ou tel débiteur, ils incluaient leurs revenus. Et oui. là, dans cette parabole, afin de faciliter, c'est-à-dire il asphyxiait en fait...
Oui.
Ce n'est pas le maître qui asphyxiait ses débiteurs, c'est cet intermédiaire. D'ailleurs, il suffit de regarder l'économie mondiale aujourd'hui, on dit toujours que ce sont les intermédiaires qui se remplissent les poches entre le producteur et, et le consommateur.
C'est une interprétation très intéressante veut rétablir l'idée d'une justice. Mais alors, je ne comprends pas quand même pourquoi il est appelé « oikonomos tes adikias », c'est-à-dire « l'intendant de l'injustice ». Sauf à dire que c'est vis-à-vis de lui-même, alors qu'il...
Non, l'injustice, c'est justement, il renonce à l'injustice. Il est l'économe, enfin, l'intendant était injuste parce qu'il appliquait, justement, tout ce à quoi il renonce. Il faisait payer beaucoup plus cher les débiteurs et il se sucrait de manière malhonnête sur le dos des débiteurs.
Oui. Mais voilà. Écoutez, c'est intéressant. Je n'y avais pas pensé. J'y réfléchirai. Je verrai si cette interprétation.
Mais c'est vrai que c'est du coup, en fait, c'est ramener les choses à leur juste proportion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous éloigne des autres? C'est cet argent. Mais cet argent est le fruit de quoi? Le fruit d'un acte malhonnête. Et du coup, ce fruit de l'acte malhonnête met une barrière relationnelle.
Oui.
Entre les débiteurs et l'économe. Une fois qu'il a levé cette barrière, la relation est beaucoup plus proche.
Tout à fait. En tout cas, cette parabole de l'intendant infidèle ou de l'intendant de l'injustice suit effectivement celle de l'enfant prodigue. Hein.
Tout à fait.
Dans l'enfant prodigue, le pardon final du père vis-à-vis du fils cadet, qui d'abord a été dévoyé et qui ensuite s'est repenti, ce pardon s'oppose à la jalousie du fils aîné. qui, lui, reste crispé, pour ce qui le concerne, sur la justice. Hein, c'est Luc 15, 11, 32. Alors, peut-on mieux dire que si le pardon est injuste, et peut-être qu'il l'est, effectivement, il y a dans la vie quelque chose de plus grand que la justice même, c'est l'ouverture du cœur et des sentiments.
Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée, pourtant comme elle est encore fière. Et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnue, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épitalame. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, l'âme qui souffre sans colère. Et comme sa morale l'éclaire, écoutez la chanson bien sage. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse.
Vous êtes sur FM+, dans l'émission Des mots pour le dire.
Et voilà, une belle masse là que vous nous proposez, juste après justement l'économe malhonnête.
Oui, alors hors antenne, nous discutions encore de cette question. Je rappelais aussi à Redouane la parabole des ouvriers de la vigne, hein, où alors celui qui travaille une heure gagne autant que celui qui a travaillé toute la journée. Celui qui a travaillé toute la journée vient trouver le maître et lui dit pourquoi cela est ainsi. Le maître lui dit, ce que je t'avais promis, je te l'ai donné, donc je ne te fais pas d'injustice. Huc adico se. Hein, je ne te fais pas d'injustice. Alors, j'ai choisi la chanson, écoutez la chanson bien douce, une chanson de Léo Ferré, à partir d'un texte que les auditeurs auront reconnu. Il s'agit d'un poème de Verlaine, La bonne chanson. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte? Eh bien, les poètes aussi nous disent que le pardon est préférable au désir de vengeance. Comme je suis littéraire de formation, je considère les poètes un peu comme nos prophètes. Hein. Et on voit dans ce poème de Verlaine qu'il y a bien une intelligence du pardon. Et que même si on oublie tout catéchisme ou toute considération théologique, eh bien, on comprend que le pardon, finalement, est la meilleure attitude, ne serait-ce que parce que dans la vie, rien ne dure et que tout a une fin. Verlaine écrit, on l'a entendu, chanté par Ferré, elle dit l'avoir reconnu que la bonté, c'est notre vie, que de la haine et de l'envie, rien ne reste, la mort venue. Vous voyez, donc le pardon ici ne fait qu'anticiper ce qui se passera de toute façon quand le temps aura fait son œuvre. Considérons par exemple la fin de l'Odyssée. Hein. Les familles des prétendants massacrés par Ulysse veulent venger les prétendants et donc perpétuer ainsi l'écoulement du sang et l'enchaînement des violences. Alors Athéna, la déesse, dit à Zeus, le maître des dieux, à la fin de l'Odyssée, verse leur l'oubli. Donc l'oubli, c'est quelque chose de très important, hein. C'est une anticipation de toute façon du futur. Je ne sais pas votre avis, Redouane, mais il me semble que dans les disputes, quand des êtres se disputent, le premier qui fait la paix est sans doute le plus intelligent, car c'est celui qui voit le plus loin. Il me semble que les mots « jamais » et « toujours » en français sont peut-être les seuls mots qui n'ont aucun référent dans une langue. Je pense que vous en serez d'accord, Edouane.
Oui, oui.
Il faut savoir regarder loin et de la haine et de l'envie, rien ne reste, la mort venue. Accueillir la voix qui persiste dans son naïf épithalame, dit Verlaine. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste, c'est-à-dire la compassion, finalement c'est la clé de tout, comme il se voit aussi dans le bouddhisme. Hein. Alors, le pardon vrai suppose l'intelligence, la compréhension. Il est intéressant de voir comment se dit le mot « pardonner » en grec et en latin classique. En grec c'est « syngignoskein » et en latin c'est « ignoskere ». Eh bien, dans ces deux verbes figure le mot racine « comprendre ». Autrement dit, il faut voir le pardon en relation non pas avec la nécessité d'apaiser une divinité transcendante ou d'effacer une dette après un contrat passé avec elle, mais il faut voir le pardon en relation avec une compréhension, c'est-à-dire avec la vision d'une excuse. Cette dernière position, me semble-t-il, fait crédit à l'homme et lui accorde la capacité de comprendre, ou non, hein, au moins de faire l'effort pour cela. Et parfois, la compréhension est exceptionnelle en profondeur. Voyez par exemple la magnifique parole de Jésus en Luc, à la fin de Luc, hein, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donc c'est Jésus en croix, hein, disant ça. Alors cette parole ne figure que dans l'évangile de Luc. Et il me semble qu'elle fait écho à la formule de Socrate dans le Gorgias de Platon, « Nul n'est méchant volontairement, udeis econ amartanei ». Personne ne s'écarte de la bonne voie de son plein gré, econ. Hein. Alors vous savez que ce « Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font » est mis aussi dans la bouche d'Étienne, qui est le premier martyr chrétien et dont la passion est calquée sur celle de Jésus. C'est ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres 7:60. Donc, quelle grande largeur d'esprit suppose justement ce type de parole. Je l'admire. Et c'est curieux qu'elle ne se trouve que dans Luc. Hein, Voilà. Alors, cependant, et là vous en conviendrez, Redouane, hein, le pardon que nous donne Jésus n'est pas du tout inconditionnel. Ce n'est pas un chèque en blanc. Hein. Le pardon demande un vrai repentir de la part de celui qui reçoit le pardon, une décision de ne plus pécher. Par exemple, quand Jésus pardonne à la femme adultère, en Jean 8:11, il lui dit « Va et ne pèche plus !» Et ne pèche plus, hein. Donc, dans le pardon, il ne s'agit pas de fermer les yeux, ce qui serait une faiblesse, mais il faut ouvrir les yeux de ceux à qui on s'adresse. Je n'aime pas cette expression, fermer les yeux. Vous l'aimez, vous, Redouane, fermer les yeux?
Non, fermer les yeux, non. Non.
Ouvrir les yeux est préférable, hein, ouvrir les yeux, plutôt que fermer les yeux.
De loin, de loin.
De loin, c'est une faiblesse que de fermer les yeux. Hein. Et pareillement, le baptême hein, peut bien sûr mener au pardon des péchés. C'est ce qu'on lit par exemple dans Marc, dans le premier mandat des évangiles, Marc 1:4. Jean parut baptisant dans le désert, il s'agit de Jean-Baptiste, et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon. Hein. Mais le baptême, pour produire cet effet consistant à pardonner, a besoin de la foi. C'est pourquoi Marc écrit en 16:16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, il ne faut pas oublier la restriction essentielle de celui qui croira. Elle est essentielle, il me semble, Redouane, par exemple pour les protestants. Parce qu'en catholicisme, on a tendance à accorder au baptême tout seul une vertu absolutoire, hein, indépendamment des dispositions de celui qui reçoit le baptême. Hein, c'est important, le fait de croire. Le baptême ne suffit pas. Il faut, me semble-t-il, qu'il y ait une vraie métanoïa, une vraie conversion intérieure. Alors, la vie en vérité, moi je m'étonne tous les jours de cet aspect-là, elle est immense et elle déjoue tous nos calculs. Hein. Vous connaissez les paroles de Jésus concernant la pécheresse en Luc 7, 47. C'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, oti egapesen polu, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc, la dernière phrase peut sembler un peu énigmatique. Hein. Est-ce que celui à qui on pardonne peu, aime peu, fait allusion au pardon accordé par Dieu à sa créature? Bien sûr, on peut le penser, mais on peut tout aussi bien, en termes tout à fait laïques, remplacer le mot Dieu par le mot vie. Hein. On comprendra alors, celui à qui la vie ferme les portes, c'est-à-dire celui à qui on pardonne peu, l'aimera bien peu, il aimera bien peu la vie. Mais celui à qui la vie donnera l'occasion de repentir, c'est la résilience ou résurrection dans cette vie, c'est-à-dire celui à qui on pardonne beaucoup, aimera davantage la vie.
Alors, c'est très rigolo, Michel, si je peux me permettre, parce que justement, hier, pour me détendre, je regardais un film sur une chaîne cryptée, qui s'appelait ce film Mafiosa, et il était justement question de Corse, et question de pardon et d'offense, ce qui fait que cette polyphonie corse tombe à point.
Oui, c'est le paternoster, c'est-à-dire la version latine du Notre Père, dans une version polyphonique. Alors, effectivement, s'agissant du pardon des offenses dans le Nouveau Testament, on est renvoyé tout de suite au Notre Père. Hein. Alors, que lit-on? Mais il y a une différence, vous allez le voir, entre la version de Matthieu et la version de Luc relativement au pardon. En effet, en Matthieu 6,12, nous lisons « Pardonne-nous nos offenses ». En fait, littéralement, ça veut dire « Remets-nous nos dettes hein. ». Alors, ce qui est important, c'est « Comme ». Nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En grec, vous avez os, hein, os, donc en latin sicut. Hein. Comme. Or, ce qui est indiqué dans la version de Matthieu, c'est simplement la mesure du pardon. Il faut comprendre, pardonne-nous dans la seule mesure où nous pardonnons. Et en fait, Redouane, vous avez souligné dans les émissions précédentes que Matthieu s'adresse à des juifs et écrit en milieu juif. On reste là dans la seule loi du talion. Alors, malgré ce que croient encore beaucoup de gens, la loi du talion n'appelle pas belliqueusement à une vengeance acharnée. Mais au contraire, elle limite en réalité l'étendue de la vengeance. Voyez par exemple Exode 21, 25, hein, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Donc, ça veut dire que, bon, œil pour œil, il ne s'agit pas de crever deux yeux à celui qui nous en a crevé un. Hein. Bon, c'est donc une limitation. Et il me semble que ce que dit Matthieu, c'est pardonne-nous, efface nos dettes dans la stricte mesure où nous-mêmes nous effaçons nos dettes. Alors, bien sûr, les gens hostiles à cette façon de voir, ils verront un marchandage, une sorte d'épicerie. Hein. Mais, en tout cas, on reste dans la version de Matthieu, dans le cadre de la religion contrat, qui est conçue comme un donnant-donnant, et que j'ai déjà mentionné. Et certains mauvais esprits pourraient voir, d'ailleurs, une fâcheuse ambiguïté dans la formulation « comme nous pardonnons hein. ». Que se passe-t-il si, en réalité, nous ne pardonnons pas, si telle n'est pas notre attitude ? La seule certitude à suivre le texte de Matthieu, c'est que nous recevrons de toute façon ce que nous méritons dans chaque cas particulier qui peut se présenter. Au contraire, la version de Luc en 11.4, que je préfère de beaucoup, elle est beaucoup plus ouverte et intéressante. En effet, nous lisons « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense ». Voyez, « car », en grec « kai gar », « nous en effet hein. ». Donc, on a ici non plus la mesure ou la proportion du pardon comme dans Matthieu, mais la condition générale du pardon divin. En termes agnostiques, hein, on peut dire la condition pour être remis dans le grand circuit de la vie. Luc s'adresse à des Grecs et non pas à des Juifs comme Matthieu. Eh bien, il part du pardon effectif, hein, qu'il pose comme un fait une fois faite la conversion ou la métanoïa. Hein. Donc Luc nous dit qu'il suffit de faire preuve de cette conversion, de cette repentance, hein, quelles que soient les circonstances, pour être pardonné par Dieu, ou bien, pour le dire autrement, pour être remis dans le grand circuit de la vie, pour être rendu à la vie. Vous voyez, c'est pas la même chose, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, et pardonne-nous nos offenses car nous pardonnons. Bien sûr, j'analyse le texte de très près, hein, mais c'est un peu ma tendance hein, de scruter le texte, un comme n'est pas un car. Hein. Et alors, la vision de Luc, qui est totalement exempte d'arrière-pensée et de restrictions, hein, elle est beaucoup plus encourageante et optimiste que la vision de Matthieu, qui est simplement casuelle et proportionnelle. Alors, cependant, je pense, malgré tout ce que l'on vient de dire, le Nouveau Testament n'est pas totalement angélique relativement au pardon. Il ne faut pas oublier, en effet, le fameux péché contre le Saint-Esprit, qui ne peut être pardonné. Alors ça, on le lit dans tous les textes, les synoptiques, hein, dans la première lettre de Jean, et au Logion 44 de l'Évangile selon Thomas. Le péché contre l'esprit, c'est le péché irrémissible, c'est-à-dire dont on ne peut pas remettre la dette. C'est le péché impardonnable. Hein. Alors, vous noterez que dans le contexte des Évangiles synoptiques, où Jésus fait preuve de beaucoup de violence, ce péché est un blasphème. Hein. Donc, ce péché contre l'esprit a rapport au langage. Que veut dire blasphème ? Blasphème vient du grec « phémi », qui veut dire « je dis ». Et je noterai qu'il n'est pas indifférent que le péché irrémissible, c'est-à-dire le péché par excellence, est très simplement, mais essentiellement, au langage. C'est peut-être le discours fréquent autour de nous de ceux qui savent ou ceux qui croient savoir, les intellectuels ou autres, et qui détruisent par leurs belles paroles, leurs beaux discours, l'âme de ceux qui croient et qui peuvent être des âmes simples. Hein. Voici ce qu'on lit dans Marc 9, 42. « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. » Alors, ce passage me fait toujours frémir, Redouane. J'espère de toutes mes forces n'être pas dans le cas de celui-là, hein, qui scandalise les petits-enfants, et qui donc tombe sous le coup de ce péché irrémissible contre l'esprit.
Je vous le souhaite.
Voilà, j'accueille ce souhait. avec réconfort, parce que parfois je me dis, est-ce que je ne vais pas scandaliser un de ces petits qui croient, hein? Mieux vaudrait me mettre une pierre au cou et d'aller me jeter dans la mer. Bon, j'essaie de toutes mes forces, comment dire, de tenir la balance égale entre les éléments affectifs et les éléments intellectuels, hein? Mais à relire toujours ce passage de Marc, je me demande si il ne faut pas parfois protéger certaines innocences, parfois.
Hein. Tout dépend, c'est-à-dire si le scandale est pour le scandale, là effectivement on peut se poser la question, c'est-à-dire faire du mal pour faire du mal, c'est-à-dire l'essence de l'action c'est porter préjudice. Alors ce que nous essayons de débattre, ce que vous essayez de mettre en lumière, c'est des questionnements. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs vous le dites, vous prenez bien soin, vous dites c'est une piste, c'est une lecture que je fais, que je vous propose, et on est en débat, mais il n'est pas question de remettre en doute la foi ou la qualité spirituelle des uns et des autres.
Ah, sûrement pas.
On échappera, ne vous inquiétez pas, on échappera à la grosse meule autour du cou.
Oui, la grosse meule autour du cou et la noyade. Alors, il y a enfin, s'agissant du pardon, un discours sur l'absolution des péchés qui est prononcé par Jésus selon Jean 20, 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, je ne sais pas si Jésus a réellement prononcé cette parole. J'aurais plutôt tendance à penser qu'on a mis cette parole dans sa bouche pour justifier le sacrement que nous connaissons, c'est-à-dire le sacrement qui donne l'absolution. L'Église, en effet, s'est autorisée de cette parole de Jésus, ou prêtée à Jésus, pour instituer et pratiquer le sacrement de pénitence, achevant par l'absolution, et elle s'abritait toujours au nom de la fameuse succession apostolique. Donc Jean, étant un apôtre ayant connu Jésus, comme Jean rapporte cette parole, la succession apostolique fait que cette parole doit être authentique. Alors, on sait qu'il peut y avoir une bien fâcheuse instrumentalisation d'un tel texte et d'une telle pratique pour manipuler les âmes et les esprits. Songez que Louis XIV même, le roi, le grand roi, le roi soleil, tremblait devant son confesseur. Alors, on m'a dit qu'en milieu protestant, le pasteur ne peut dire que Dieu te pardonne aux pécheurs, et c'est très prudent. Je le préfère, moi, ce Dieu te pardonne du pasteur protestant, au dominateur ego te absoluo, c'est-à-dire moi je te pardonne, que prononce le prêtre catholique. Est-ce que je me trompe sur la formule, Redouane?
Non. D'ailleurs, en tant que pasteur, généralement, c'est je ne qui suis-je pour pardonner? Nous sommes ensemble, je veux dire, dans la confession des péchés, c'est-à-dire on annonce la grâce. Et cette grâce n'est pas moi j'envie autant que les autres de cette grâce. Donc effectivement, on est plus dans cette approche théologique, c'est que le pasteur est un laïc, nous sommes tous prêtres, alors que dans la théologie catholique, c'est même pas le prêtre d'ailleurs qui pardonne, c'est par dérogation, c'est l'évêque en réalité détient l'absolution.
Voilà, cette idée de sacerdoce universel qui était chère à Luther, effectivement, empêche qu'on puisse dire « moi, je te pardonne ». Alors, que le prêtre le dise, je te pardonne soit en son nom, soit au nom de l'évêque, c'est intéressant, il a donc une délégation, effectivement, ça me semble extrêmement problématique. Bon, je ne sais pas si ce ego te absoluo est encore en cours dans le monde catholique, ça veut bien dire ego te absoluo, moi, je te pardonne. Alors, au terme de cette réflexion sur le pardon, j'ai choisi un chant qui est chanté à Noël, puisque à l'approche de Noël, cela m'a semblé être tout à fait d'actualité, c'est le fameux « Minuit chrétien ». Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autre version que celle de Tino Rossi, et j'aurais préféré trouver une autre version. Mais enfin, il est dommage, il me semble que le côté doucereux et le côté kitsch de l'interprétation de Tino Rossi supprime le côté majestueux de ce chant. Il s'agit d'un chant du XIXe siècle dont la musique a été composée par Adolphe Adam en 1847, hein, et dont les paroles sont d'un certain Placide Capot de Roquemort. Donc, ce chant a bercé mon enfance. À Noël, on le chantait tout le temps. Hein, on le chantait tout le temps. Il est majestueux, mais aussi, alors j'invite les auditeurs à bien écouter les paroles, surtout les paroles qui sont au début de ce chant. Je les répète, « Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. » Alors, moi, quand j'entendais ça étant enfant à l'église, bon, bien entendu, j'étais sensible à l'air, hein, à la musique, je n'écoutais pas les paroles. Mais quand je réfléchis à ces paroles, c'est une théologie barbare, l'idée d'un prêtre, d'un dieu le père, qui se repaît, en quelque sorte, du sang de son fils, hein, et de son père, arrêter le courroux, apaiser la colère de Dieu. Ça me semble problématique. Donc, comme toujours, méfions-nous, ne nous laissons pas seulement prendre à la beauté de la musique, même si on n'est pas sensible, bien sûr, au chant de Tino Rossi, mais écoutons aussi les paroles.
Qu'il souffre et meurt. Oh.